dans la bouche à l'entreprise, nous avons considéré le verset 12 à 22. Et par avant, nous avions parlé de le grand thème. Dimanche dernier, nous avons vu à l'eau, et le dimanche d'avant, nous avons parlé de la révérence. La révérence de Dieu. Et pour un rappel, ces versets viennent comme une conclusion des versets des chapitres 4 et au début du verset du chapitre 10, toute une série de prescriptions que Moïse fait à cette nouvelle génération d'Israël qui a succédé, qui succède à l'ancienne génération qui a passé 40 ans dans le désert. Et là, il y a une génération qui arrive devant le pays du Canaan qui doit connaître les termes et les exigences de la loi que Dieu donne. Et là, nous sommes à la conclusion. Moïse reprend en quelque sorte tout ce qu'il avait déjà dit dans les chapitres 4 à 10. Et là, nous avons parlé de la révérence à l'Éternel. Révérer l'Éternel, il veut dire l'honorer, le respecter pour qui il est. Et nous avons vu que Dieu est Dieu. Et déjà, parce que Dieu est Dieu, il mérite toute l'adoration et toute louange. Il mérite le profond respect parce qu'il est Dieu. Nous avons vu qu'il mérite aussi la crainte, et c'est le même mot qui nous dit révéler, honorer, qui veut dire, qui véhicule ce sens aussi de craindre Dieu. Et nous avons montré que Dieu est le juste juge qui fait justice. Avoir la crainte de Dieu parce qu'il fait justice. Et nous avons vu, en dernier temps, pour ce premier chapitre, pour le premier volet, que Dieu mérite la crainte et le respect parce qu'il nous a choisis. La chose fondamentale, Dieu est Dieu, il est le juste juge, le seul juste juge nous a choisis, faisons de nous ses enfants. Raison encore plus grande de l'honorer et de le respecter. Dimanche dernier, nous avons parlé de notre aspect de cette révérence, de ce respect, et nous avons vu que révérence forcée, ce serait de la tyrannie. Mais ce que Dieu demande de son peuple, c'est que son peuple. Et nous avons vu que Dieu a aimé son peuple le premier. Et du fait que Dieu aime son peuple le premier, lui donne la vie, lui donne un sens à son existence. Et un autre volet que nous avons vu de l'amour, c'est, nous n'allons pas trop faire, mais c'est l'amour des uns pour les autres. Nous avons terminé sur ça. L'amour des uns pour les autres. Dieu veut que nous aimions les uns vers les autres. Et là, ce matin, nous allons aborder cette dernière exigence, ce qui est attendu. Maintenant, nous savons qu'il faut honorer Dieu. Nous savons qu'il faut l'aider. Maintenant, c'est la mise en pratique. Et il est bon d'avoir les choses dans la tête, c'est vivre la parole. C'est ce que Dieu nous veut. Comment vivre la parole. Et comment s'exprime cette révérence? Comment s'exprime cet amour? Ici, dans le texte, on parle de l'obéissance. Garder la loi, garder les préceptes. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Et on va faire un parallèle sur deux cœurs, deux types de cœurs. Un cœur qui a les caractéristiques de ce cœur obéissant et de notre côté, les caractéristiques d'un cœur qui ne l'est pas. D'accord? Donc, ce sont les deux choses que nous verrons ce matin. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta grâce. Merci de nous rappeler que ta bienveillance vaut mieux que tout ce que nous avons vu. Ta bonté vaut mieux que la vie. Seigneur, nous voulons être sûrs d'avoir bien compris ces mots. Et plus que les avoir compris, nous voulons aussi, à un moment donné, nous voulons les vivre, nous voulons mûrir, nous voulons grandir pour pouvoir vivre conformément à ce que tu nous as prescrit. le bruit qu'en ce matin tu puisses nous parler, tu puisses disposer nos cœurs à l'écoute de ta voix. Tu puisses, cet instant, s'il te plaît, Père, prendre le contrôle de toutes choses et que tout ce qui sera dit soit dit sous ton autorité, par ton autorité. Je te prie que le sentiment même propre se taise et c'est là que tu puisses prendre toute la place qui te dit, la place qui te rend, sinon juste. Alors je vais revenir pour ce texte, nous n'irons pas jusqu'au verset 22, ce matin nous allons lire du verset 11 à 7. Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 16. Et maintenant, Israël, qu'attends-toi, l'Éternel, ton Dieu? Simplement que tu le révères en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en les mains et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être, en observant ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. Voici le ciel. Et même les cieux les plus élevés appartiennent à l'Éternel, ton Dieu, ainsi que la terre et tout ce qu'elle contient. Et pourtant, c'est uniquement à tes ancêtres que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et c'est à leurs descendants, c'est-à-dire vous, qu'il a choisi parmi tous les peuples, comme vous le constatez aujourd'hui. Opérez donc aussi une circoncision dans votre cœur et ne vous rebellez plus contre l'Éternel. Amen. Alors, tu vas juste là. Obéissance à Dieu. Le troisième volet de ce message. Quelle est la définition? Qu'est-ce que l'obéissance? C'est pour obéir. Déjà, dans la Bible, les termes qui sont employés pour l'obéissance sous-entendent une chose. C'est qu'il y a une écoute active qui est soumise à une autorité. Il y a une notion de soumission. Quand on traduit le verbe obéir, que ce soit en hébreu ou en anglais, il y a cette idée de soumission, d'écouter, mais de se soumettre pas. D'accord? Donc, pour qu'une obéissance, pour que l'obéissance soit due à une personne, il faut deux éléments. Deux éléments sont nécessaires. Il faut, le premier élément, c'est l'autorité de prescrire. Qu'est-ce qu'il faut pour faire l'autorité de prescrire? Une mère parle à son enfant parce qu'elle est mère, elle a cette autorité. Donc si elle dit à son enfant de ne pas, l'enfant doit ne pas. La même chose pour le père. Ça, c'est l'autorité. D'accord? Et la deuxième chose, c'est de faire savoir ce qu'il interdit sans faire connaître ses exigences, pas d'obéissance. Donc on a vu deux éléments, une autorité confirmée et la capacité de prescrire. Et nous voyons que dans le texte, ce que Moïse s'attache à faire. Moïse s'attache à établir ce Dieu. Il est Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il possède les cieux et la terre. Il a ce pouvoir sur les cieux et sur la terre. L'autorité de Dieu. Il n'y a pas de loi qu'il a prescrite. Moïse transmet une loi. Moïse transmet des ordonnances, des prescriptions, mais qui ne viennent pas de Moïse lui-même, mais qui viennent de l'Éternel. Ces prescriptions viennent de l'Éternel. Alors, dans ce contexte-là, que nous comprenons, qu'est-ce qu'un cœur qui est disposé pour lui? Un cœur qui a ses caractéristiques, qui dit « choqué, je vais revenir à l'autre ». Et il me semble que la première, c'est reconnaître l'autorité de Dieu. Elle passe par là. C'est reconnaître l'autorité de Dieu sur sa vie. On le dit, mais ça ne paraît pas. Ça nous paraît évident maintenant pour nous qui sommes là. Bon nombre de personnes, ce n'est pas le cas. et cette autorité nous appartient. Obéir, c'est ce cœur qui prend Dieu au sérieux. Il prend Dieu au sérieux parce qu'il fait attention à ce que Dieu dit. Il sait que les prescriptions de Dieu ont la même autorité que Dieu. Quand Dieu prescrit, son autorité dans sa parole. On dit que la Bible est parole de Dieu. Et lorsque nous disons que la Bible est parole de Dieu, nous disons que la Bible fait autorité sur notre foi, la Bible fait autorité sur ce que nous vivons. Donc le cœur qui est obéissant, c'est ce cœur qui prend au sérieux ce que Dieu dit. C'est le cœur qui a, comme on a vu, la crainte de Dieu. C'est ce cœur qui le connaît, qui connaît ce Dieu-là personnellement. Nous n'allons pas revenir dessus. Mais c'est un cœur qui connaît Dieu personnellement. Et nous savons que connaître Dieu personnellement passe par cet homme d'étude de la parole de Dieu. Nous avons besoin de ça. C'est un cœur qui aime Dieu. Et le plus grand désir d'un cœur obéissant, c'est de faire la joie de son Dieu. Un cœur obéissant à Dieu, son plus grand désir, c'est de faire la joie de son Dieu. Jésus dira, celui qui m'aime gardera les commandements. L'apôtre Jean, dans les épîtres de Jean, reprendra encore cette même phrase. Ceux qui aiment Dieu gardent les commandements. On ne peut pas dire que Dieu sans rejeter le commandement de Dieu. Sans garder les commandements de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire alors observer? Qu'est-ce qu'il dit? Observer et garder ses commandements. Il me semble que observer, garder le commandement de Dieu, c'est de faire en sorte que sa manière de penser, sa manière de parler, son comportement soit conforme à la parole. Ça devient un mode de vie. Ça devient une habitude. Vous voyez, nous voyons les sportifs, vous dites, mais lui, il est sportif. Mais un sportif, il a ses habitudes. Un sportif, à haut niveau, il a ses habitudes. Il a ses habitudes à l'image. Il a un autre. C'est pas mal pour tous les jours. Il va manger sainement parce qu'il sait que ce qu'il va manger contribuera à sa performance. Révéler, garder ces commandements, c'est ça peut devenir que chaque entreprise, c'est ce que Dieu disait à Josué, ce que tu entreprendras, garde ce livre précieusement, répète-le, pour que ce que tu entreprendras ait du succès. Donc chaque entreprise, chaque action est nourrie par ses prises, par les principes de la parole de Dieu. Et à certains égards, certains choix peuvent nous paraître évidents. Si nous sommes confrontés à certains choix à faire, et ça peut nous sembler évident. Parfois, l'évidence pour nous ne va pas de soi pour d'autres. Je vais vous prendre des exemples. Imaginez que vous êtes dans une entreprise. Vos compétences sont reconnues. Mais pour accéder à une promotion, on vous demande d'exercer certaines activités qui ne sont pas en adéquation avec les autres. Si tout va bien, quand tout va bien avec cette personne, on peut se dire non. Mais imaginez que cette proposition arrive à un moment où ça fait 2, 3 années, 4 années que vous êtes là. À boucler les fins de mois, sont difficiles. Vous êtes dans le besoin particulièrement là, il y a ça coince. Quel est le choix que vous faites? C'est à ce moment-là qu'on est-ce que j'obéis à Dieu? J'obéis à Dieu pas quand c'est facile. Mais quand la chose devient difficile, quand la chose me coûte, obéir à Dieu. Et un autre exemple qui m'est venu, et qui, ça fait bon, plus jeune, mais pas trop jeune non plus. Donc ça fait un moment qu'on voit les choses. Au niveau des jeunes, ce jeune, cette génération aujourd'hui. Un des défis que je vois pour les jeunes, c'est ce sont les relations sentimentales. Un défi que je vois pour les jeunes, ce sont les autres. Il y en a d'autres, d'accord? Il y en a d'autres. Et même pour les plus âgés, déjà, les relations sentimentales sont déjà certains défis. Là, je monte, on se voit, et on se dit, mais voilà. Peut-être l'heure est venue pour moi de me. J'aimerais me marier, j'aimerais fonder quelque chose, et dans l'église, je n'ai rien. Qu'est-ce que je fais? Quel est le choix que je fais? Alors là, on pourrait être dogmatique dessus et réciter la Bible. Tu ne te mettras pas sur le jour tranché. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? On pourrait être dogmatique dessus. Mais la réalité nous montre que les choses sont un peu plus complexes. Comment nous, l'Église, on accompagne les gens à faire ces choix? Comment notre Église, on accompagne nos jeunes dans ces choix? Que ce soit conjoint, le choix du conjoint, que ce soit le mode de vie, que ce soit le métier futur, comment on aide cette génération à faire des bons choix? Je crois qu'il ne faut pas minimiser ce défi chez les jeunes, bon, au niveau sentimental, puisque ça parle de l'intérieur. Quelqu'un nous plaît, mais ce n'est pas extérieur. Si c'est extérieur, on peut se battre. Mais quand ça nous vient, ça nous amène à se battre contre soi-même, en fait. On se bat contre soi-même, on se bat contre ses propres désirs. Comment je fais le choix de révéler le plan de Dieu dans les relations que je vais décider, la relation que je vais décider de vivre? Et je pense que cela nous engage, nous l'Église. Cela nous engage, nous parlons. Obéir à Dieu se vit dans la communauté, obéir à Dieu se vit à la maison, obéir à Dieu se vit peu importe là où on sort. Mais ça s'apprend. Cela ne nous va pas de soi. Et c'est pour cela qu'on a l'école des enfants. D'accord, on a l'école, enfin, les réunions du jeune, les réunions des ados. Mais tout cela vient complément avec ce qui se passe dans les familles. Enfin, ce qui se passe à l'église ne va pas remplacer l'éducation qui est faite à la maison. Comment, en tant que mon leader, aussi en tant que parent, comment j'apprends à mon enfant à mettre Dieu au-dessus de tout ce qui me concerne. Et cela nous permet de rebondir sur notre aspect de ce cœur de Christ. Et nous l'avons chanté juste avant le message. Ta bienveillance, l'Éternel, si nous n'avons pas expérimenté la bienveillance de Dieu, si la bienveillance de Dieu n'est pas une certitude dans nos vies, alors lui obéir deviendra problématique. Dieu a l'autorité de prescrire, il est Dieu. Il a donné ses lois. Mais si je ne comprends pas que sa loi vise mon bonheur et ses skills, sache ce qu'on dit à Israël. Les lois qu'il t'a prescrites pour que tu sois heureux. On peut imaginer Israël dans le pays et Israël obéissant aux commandements, en fait. Voilà. Peut-être que nous ne serions pas là si Israël avait obéi comme ça. Vous imaginez votre chair en train de. Sans problème. Là, c'est la chair du bois, là. On a tout, je crois. Pas de vol, pas de meurtre. Le pays, il a apaisé, tout va bien, tout est nickel. Waouh! Mais c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que nous désobéissons. Parce qu'Israël n'a pas compris que les lois de Dieu étaient là pour qu'ils soient heureux. Et nous sommes aussi. Nous sommes pas d'Israël. Nous avons des efforts à faire. Mais je reviens sur nous. Comprendre que Dieu est bienveillant. Comprendre que Dieu est amour, c'est une chose. Mais le savoir, que ce soit un fondement dans ma vie, il faut que je le vive. Il me faut le vivre. Et comment le vivre? En suivant l'exemple de Jésus. Comment le vivre? C'est suivant l'exemple de Jésus. Qui n'a pas regardé comme un poids arraché, lui qui était égal à Dieu. Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est mis au fait. Il a tout laissé, il a laissé cette ressemblance qu'il avait. Il a pris notre ressemblance. Il a pris cette forme humaine. Et on l'a vu. On l'a touché. Mais ce qu'il y a à tel point, il a donné sa vie et qu'il est mort sur cette forme. Et je crois que c'est la parole la plus forte. Dire que Dieu, tu es bienveillant et ce que tu dis, ce que ta parole déclare envers moi, t'amène à accomplir. Toutes les promesses qui sont dans ta parole, à mon égard, ta main, s'accomplira. Je crois que c'est le psaume 118. Et Jésus cite à la croix cette parole. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et à certains égards, les gens sur la foule étaient devant lui et ont dit, mais Dieu l'a abandonné, Dieu s'est a tourné le jour. Il a laissé seul sur cette croix-là. Dieu n'est plus avec lui. Je vous invite à reprendre ce psaume. Et à venir jusqu'à la fin. Chez les Juifs, il est coutume de dire un verset, mais il faut faire la référence à tout le reste. Dans le reste du psaume, il dit tu ne laisseras pas. Jésus disait tu ne laisseras pas mes os connaître la corruption. Jésus a foi en cette parole et nous invite maintenant, à nous qui avons le Saint-Esprit, à prendre cette parole, à prendre les promesses de Dieu et à les faire notre. Que le Seigneur nous aide à prendre les promesses de Dieu et à nous les accomplir. C'est par la foi que je peux complaire à Dieu. C'est par la foi qu'on lui obéit. L'obéissance, comme on l'a dit, c'est cette source de bénédiction. Parfois, la bénédiction ne prend pas forcément le chemin. Mais que Dieu nous aide. C'est bien la promesse de Dieu. Maintenant, nous allons voir les caractéristiques d'un cœur qui est désobéissant au texte de Dieu. Le texte est ici aussi considéré que chose. Je sais considérer mon cœur, c'est la 16. Opérez donc pour ces une circoncision dans votre cœur et ne vous rebellez plus contre les hommes. La scripture de Moïse, c'est de circoncire le cœur et de ne plus se rebeller contre les hommes. Les caractéristiques alors du cœur. Les obéissants qui rebellent, c'est ce cœur qui est circoncis. Le cœur qui est circoncis, c'est le cœur qui se révolte, qui se rebelle contre la volonté. L'obéissance à la loi, c'est un signe de l'alliance extérieure, c'est un signe extérieur de l'alliance de Dieu. Obéir au commandement de Dieu, C'est un signe que nous mourons, nous disons que nous avons fait allégeance avec le Dieu du ciel. Et pour bien comprendre les images qui sont dans le texte, nous allons un peu décortiquer. La circoncision du cœur. Le texte lui-même, littéralement, nous dit, vous circoncidez le prépuce de votre cœur. Là, c'est la soin littérale. On traduit le texte hébreu, il dit, vous circoncidez le prépuce de votre cœur. En voyant cette image, Moïse l'envoie premièrement à l'alliance qui a été faite avec Abraham. Genèse chapitre 2. Dieu donne ce signe à Abraham, la circoncision, comme signe d'alliance. Et ça sera pour la nation, pour le peuple juif, un signe distinctif parmi les autres peuples, disant qu'ils ont fait alliance avec Dieu. C'est un signe physique de l'alliance. Mais prendre cette image et la ramener au cœur, Moïse est en train d'amorcer une théologie qui est un peu nouvelle à partir de là. Moïse parle de la circoncision du cœur. C'est tout à fait nouveau. C'est un terme qui sera repris chez les prophètes. Circoncision du cœur. La circoncision. On a dit que c'était un signe de l'alliance, mais elle avait une autre fonction. La fonction de la circoncision, c'était de prévenir des maladies sexuellement transmissibles. Vous voyez les personnes, les hommes, dans le désert, dans cette marche dans le désert, il peut y avoir des virus qui se logent dans cette partie du corps. Donc Dieu préconisait qu'on enlève, pour qu'il n'y ait pas de maladie dans le peuple, et pour qu'il n'y ait pas une forme de pandémie dans le peuple. Donc, déjà une prévention contre la maladie. Et ramener cette image au cœur nous parle de la maladie du cœur. Et c'est quoi la maladie du cœur? La maladie du cœur, c'est le péché. Ce que Moïse est en train de dire, c'est le péché. Retirez le péché dans votre cœur. Le péché, c'est cette maladie qui vient, qui se dresse, qui fait que l'homme se voit autonome. Le péché est inimitié à Dieu. Il est contre Dieu. C'est inimitié. C'est-à-dire, être inimitié, c'est être hostile à Dieu. Le péché est hostile à Dieu. Il se dresse devant Dieu. Il n'a pas la révérence de Dieu. Il ne craint pas Dieu. Il ne le respecte pas. Il dit qu'il est autonome, il dit qu'il est autosuffisant, il dit qu'il peut décider par lui-même. Un cœur ainsi reconcilié, c'est un cœur qui se dresse aussi devant Dieu parce qu'il veut décider pour sa vie ce qui est bien. À partir du péché d'Adam, le cœur de l'homme est devenu ainsi. Adam a reproché à Dieu, mais c'est la femme que tu as dit. Et nous, sans cesse, on a cesse de reprocher à Dieu. Certaines choses. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Et la société remet en cause les décisions de Dieu. Alors, quand nous passons cette attitude devant la description de Dieu, du Dieu qui est fait dans notre tête, on se rend compte que cette attitude elle est dangereuse. Un Dieu grand, bon, merveilleux, mais aussi redoutable, fort et redoutable, ce Dieu suprême. Toi, nous qui ne sommes pas Dieu, voir le mettre face à Dieu. Je dirais que le péché là, nous sommes dans un problème. Un cœur désobéissant est dans une attitude où il est en danger. Mais Dieu fait partie, c'est vrai, Dieu fait partie de la compassion. Dieu sait de quoi nous sommes. Dieu sait de quoi nous sommes. Alors il demande patience. Mais cette patience n'enlève pas la gravité des choses. Il est évident pour Israël de se débarrasser de de ce péché. L'histoire plus tard va nous montrer qu'Israël a échoué et partira aussi en exil. Il ne sera plus dans le pays, dans la terre promise. Et il a bien fallu la mort de Jésus sur une croix pour solutionner le problème. Le prix que ça a coûté, c'est la mort du Fils de Dieu. Montrant la gravité du péché dans le cœur de l'homme. L'homme ne peut pas se changer lui-même. Il n'a pas la possibilité de se changer lui-même. Et Moïse leur dit, si on considère. Donc, Moïse leur demande de se changer, mais il n'avait pas la capacité de se changer. Et plus tard, Moïse, un peu plus loin dans le Deutéronome, demandera à Dieu de se circoncire, de le faire. Et c'est ce que Jésus veut dire. La solution, Jésus est là, attention à quoi? Il y a la possibilité de recevoir un cœur nouveau. Un cœur qui va vers la réconciliation. Un cœur qui recevra mes commandements. Jésus dira, prenez mon joug. Mon joug qui est facile. Je suis doux de cœur. Et c'est cette même image quand on dit ne vous rebellez pas. Et pour cette image de la nuit crête, vous êtes un peuple à la nuit crête. Vous savez, c'est un animal de champ qui refuse de promettre cette pièce de bois sur son cou, sur sa lune d'affaires pour le tirer. Il y a des animaux comme ça. Et parfois, chez les taureaux, obligés de percer le nez pour pouvoir poser cette pièce pour pouvoir le diriger. Et à certains égards, un cœur est circoncis, un cœur qui a du péché en lui est un cœur qui refuse toute direction de Dieu. C'est un cœur qui refuse que Dieu puisse lui dire où aller, que faire, pourquoi. C'est un cœur qui a oublié que Dieu, il ne sait pas, que Dieu veut son bonheur. Je disais donc que parfois la volonté de Dieu nous conduit sur les sentiers où notre obéissance va être mise à l'épreuve. L'épreuve ne signifie pas péché. L'épreuve ne signifie pas péché. Abraham a été éprouvé. Hein, on lui a demandé son Isaac en Genèse. C'était pour l'éprouver. Jésus a grandi en obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus a été éprouvé. Nous aussi. À certains égards, Dieu nous permet d'être éprouvés afin que notre obéissance également se situe. Le but, c'est de former en nous l'image de Jésus. Le projet de Dieu pour nous, c'est de former en nous l'image de Jésus-Christ. Et si le Fils a grandi par les choses qu'il a souffert, nous aussi, nous grandirons par les choses qu'il a souffert. L'épreuve nous coûte, elle a coûté la vie du Fils de Dieu. L'épreuve nous laisse parfois sur le carreau disant que nous avons perdu quelque chose. Nous avons été lésés quelque part. Mais en Dieu, Dieu, il dit que tu as gagné. La victoire est née en nous. La promesse est la vie éternelle. La vie. La promesse de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est la gloire avec lui, c'est partager cette gloire par le Fils dans les lieux célestes. Et un jour, nous régnerons sur terre. Voilà. Mais en attendant, Dieu est en train de nous former. Jésus, comme nous l'avons dit, n'a pas regardé à sa condition de vie dans ses débuts. L'orgueil parfois nous empêche de prier le jour. Mais l'orgueil a sa place à la croix de Jésus-Christ. L'obéissance à Dieu, ce n'est pas une option, mais un état. L'obéissance à Dieu, c'est l'expression que nous aimons Dieu. L'obéissance à Dieu, c'est l'expression que nous respectons et honorons Dieu. Alors que Dieu puisse nous débarrasser de tout ce qui est encore hostile en nous. Que Dieu puisse nous débarrasser encore de tout ce qui est hostile en nous. Ma prière, c'est que nous puissions vraiment l'amour de Dieu, touchés par l'amour de Dieu. Que cet amour soit comme une âme. Que nous puissions connaître que Dieu est bienveillant envers nous. Et que cette bienveillance soit comme une âme, le fondement de notre vie. Et lorsque nous arrivons devant les désordres, que par amour pour Dieu, que par honneur parce que Dieu nous a choisis, que nous puissions répondre par la crainte de son Seigneur, par l'amour que nous lui avons, par l'obéissance à son Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse.